Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs et bienvenue dans ce nouveau numéro des Thermofromages. Toujours la même chronique, on continue la même formule. Je suis toujours accompagné de Flavien. Salut Flavien.
Salut Père Castor. Mais avant qu'on continue, on va aller voir si on n'a pas des commentaires, parce que Cyrus nous a bien dit que pour chaque chronique, il fallait...
Absolument.
Et donc, sur le numéro précédent, on avait Monsieur Patate, qu'on salue, qui nous avait laissé un petit commentaire en disant... Alors, j'ai l'impression que Monsieur Patate culpabilise un peu de nous avoir fait une remarque, pas désobligeante, loin de là, mais en tout cas, qu'on avait peut-être pris... de cette manière à un moment, et depuis il nous fait des commentaires tout gentils, on le remercie bien sûr, même si il faut pas qu'il hésite si des trucs le gênent.
C'est depuis le numéro sur les jeux coopératifs.
C'est ça, et du coup lui sa chronique, donc on rappelle le thème c'était les enchères, c'est
eux
ça.
Eux comme enchères, absolument.
Eux comme enchères, et donc le commentaire de Monsieur Patate c'était « La chronique est intéressante, personnellement je n'aime pas les jeux d'enchères, sûrement pour une des raisons que vous avez citées. » Donc on en avait cité pas mal, hein, soit le côté où on a du mal à estimer, soit le côté...
L'exigence et l'aspect punitif hein, des jeux d'enchères.
Et il nous avait quand même cité une petite exception pour lui, qui était donc le jeu Non Merci, que je ne connais pas personnellement.
Mais déjà il donne pas envie, hein. Si on te propose une partie, c'est un non directement Non
c'est
Merci.
C'est ça, et tu lui as gentiment répondu en le remerciant déjà. Donc merci Monsieur Patate, n'hésitez pas à laisser des commentaires, que la chronique vous plaise ou non, que le sujet vous évoque des jeux ou des sujets à approfondir, on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible et dans le temps qui nous est imparti, et en plus vous aurez l'honneur, comme Monsieur Patate, d'être cité dans l'émission suivante. Donc merci Monsieur Patate, on va passer aujourd'hui au sujet qui nous intéresse, et c'est quoi aujourd'hui on a choisi ?
On n'était pas d'accord sur la lettre, mais on voulait parler de la même chose, mais pas avec la même
définition,
terme, voilà, c'est ça. Donc moi je voulais parler d'accessoires.
C'est ça, et moi j'ai trouvé que ça faisait un peu porno, donc j'ai dit, écoute, est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure lettre, un meilleur terme pour ça ? Et en fait finalement, quand on en a discuté après, on s'est rendu compte qu'on pensait à la même chose.
C'est ça, on voulait parler matériel.
C'est ça, matériel, et justement, pas juste le matériel de base, mais le...
En fait tout ce qui gravit dans la constellation du matériel qu'on peut trouver aussi bien intégré de base dans les jeux de société, mais également tout ce qui peut s'acheter en à côté... Ce qui peut être accessoire, pour
ouais.
le coup,
ouais, justement, ouais.
ou nécessaire.
Et du coup,
ou
aujourd'hui, on va vous parler de matériel. Donc on va effectivement parler matériel, c'est pour introduire ce thème, je vous ai choisi justement Living in the Material World, un titre de George Harrison issu du même album, George Harrison des Beatles. Et donc matériel, de manière, comme tu l'as dit, plutôt orienté vers de matériel qui va enrichir l'expérience de jeu d'une manière ou d'une autre, qui soit...
Alors qu'il va juste faire gonfler le prix de la boîte.
Peut-être.
Ça, c'est un autre,
ouais,
c'est un autre
mais,
débat.
Mais là, tu parles de capitalisme et tout. Et je pense que tu prêtes de mauvaises intentions aux éditeurs qui ne recherchent pas l'argent, mais d'abord l'expérience du joueur.
Ou alors qui cherchent à assouvir la passion de collectionniste des joueurs. Parce que dans tout joueur, enfin, dans une certaine catégorie de joueurs de jeux de société, il y a un aspect collectionneur. Et donc, qui dit collection dit bel objet. Qui dit bel objet dit accessoire ou matériel qui s'accompagne avec une belle boîte.
D'ailleurs, le thème d'aujourd'hui va faire un peu parallèle, ou en tout cas va rappeler celui des goodies, forcément. Parce que parfois, les accessoires peuvent être des goodies.
Alors, on a essayé un petit peu de dégrossir tout ce qui était matériel, mais un petit peu dans son ensemble. Alors, ce qu'on va trouver dans les boîtes de base éditées, ce qu'on va pouvoir acheter en à côté auprès de l'éditeur, mais également ce qu'on va pouvoir acheter en supplément qui n'est pas prévu par l'éditeur. Donc, on a essayé de ratisser un petit peu large, j'ai essayé de faire un petit peu la synthèse de tout ça, à partir de quand c'est apparu. Alors, si on essaie déjà de faire un peu l'historique du matériel, on voulait parler un petit peu des éditions Deluxe. Et on a un petit peu d'abord pensé aux éditions Deluxe de Caylus. Alors déjà, Caylus, c'est un jeu assez ancien, l'édition Deluxe...
Ah, c'est ancien, des années 2000, disons, mais par rapport aux joueurs peut-être qui découvrent aujourd'hui le jeu de société, effectivement, c'est...
On peut commencer à parler d'un grand ancien, Caylus, hein, qui est sorti en 2010, donc qui proposait un...
Donc Caylus qui est sorti, lui, en 2005,
en 2005
mais l'édition
ouais.
Deluxe qui est sortie en 2010.
donc pour les 5 ans du jeu, et qui proposait du coup un matériel luxueux, un nouveau plateau qui avait été redessiné, qui avait copié certaines critiques.
Détracteurs, parce que du coup il était moins jouable, mais il faut comprendre que là c'était une édition artistique qui visait à retranscrire l'ambiance moyenâgeuse de Caylus, plutôt que faire un truc qui soit ultra jouable. Sur chose qui a évolué ou pas, on verra.
T'avais des pièces en métal, t'avais la bourse en tissu. Les illustrations des tuiles bâtiments avaient sans doute dû être.
Il y avait un retravail aussi sur les perspectives, je crois, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que ce qu'on a différencié vraiment, c'est ce que tu as dit au début, c'est on a fait entre guillemets une partie dans le matériel de base, c'est-à-dire du matériel qui a été soit intégré au jeu, soit upgradé, disons. Soit d'un autre côté le matériel qui a été acheté à côté, enfin qu'on peut acheter à côté pour enrichir notre expérience de jeu, mais qui n'est pas effectivement dans la boîte de base.
Donc, et du coup qui fait office de matériel accessoire ou enrichissant.
C'est ça. Et bon, alors t'as parlé de Caylus, il y en a sans doute avant, certainement des jeux où il y a des éditions de luxe, et même au-delà de ça, on peut penser, alors là il nous faudrait Dany, mais dans des vieux jeux. Jeux qui utilisent des mécanismes complexes, des trucs avec des labyrinthes qui sont pas forcément...
Tu prends le jeu Super Gang où t'avais des flingues en plastique à l'intérieur. On peut aussi commencer à parler de matériel un peu luxueux.
Ouais. Et alors, ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'on va aussi, surtout, on va pas parler des différents types de matériel, des cubes en bois, etc. On va vraiment s'axer sur le matériel qui, entre guillemets, pourrait être remplacé par du matériel beaucoup moins luxueux ou beaucoup moins illustratif, représentatif.
Mais en quoi le matériel se justifie, certains types de matériel se justifient pour certains jeux. Ouais.
Donc, et là, ce que tu dis par exemple pour Super Gang, mais il y a aussi. Parce que typiquement dans certains anciens jeux où tu vas avoir des billes qui vont tomber, etc., c'est en lien avec
tu
le gameplay.
Prends l'île infernale par exemple.
Je me rappelle plus assez, mais il me semble qu'il y a des trucs comme ça où finalement t'as des trucs qui se justifient par les mécaniques et où finalement tu les retirerais, en fait tu retirerais presque la mécanique de jeu. Nous on va vraiment plus parler de trucs où tu pourrais retirer et remplacer par des trucs beaucoup moins luxueux et le jeu resterait fondamentalement d'un point de vue mécanique le même.
Alors un des premiers exemples sur le type de remplacement qui me vient à l'esprit, ce serait le jeu Sun Tzu qui est ressorti en édition de luxe chez Matago.
Un excellent jeu par ailleurs de guessing et de...
C'est ça, si... C'est l'origine de Flamme Rouge, hein, c'est ce qu'on discutait avant.
C'est ce que tu disais, ouais.
J'avais un petit peu le même sentiment, hein, quand tu joues à Flamme Rouge, tu retrouves des sensations de Sun Tzu avec les cartes qui sont numérotées.
C'est ça, par rapport au choix des cartes, pas par rapport vraiment à la...
Le risque, comment est-ce que tu vas le jouer, est-ce que tu vas jouer une carte forte ou une carte faible en fonction de ce que va...
Avec pas la même but, puisque Flamme Rouge c'est un jeu de course alors que Sun Tzu c'est un jeu de conquête, mais en tout cas dans le choix de...
C'est une course à la conquête, hein, d'un côté. Donc,
ouais. Donc Sun Tzu, ouais, qui est un jeu assez ardu quand même, moi je trouve que c'est un jeu, un bon brain burner. Mais donc le jeu était sorti à la base dans une toute petite boîte. Moi, c'est celle-ci que j'ai. Le jeu est très bien. Bon,
elle était déjà en français ?
Elle était en français, ouais. Et il me semble qu'il y a effectivement des petites figurines dedans qui ne sont pas forcément remarquables. Et donc, il est ressorti en édition de luxe il y a quelques années. Donc, dans une plus grande boîte avec un plus gros prix.
Et avec des petites figurines bon, de qualité assez médiocre.
Ouais, pour le coup, moi, je n'ai pas joué dans cette version-là, mais...
Et pareil, tu avais des petits chevalets pour définir les scores sur les différents,
alors que là,
âges.
Alors que dans la boîte de base, c'était juste une piste sur laquelle on plaçait un pion et qu'on déplaçait.
Ouais, donc là, tu avais une espèce de figurine, tu avais l'impression que c'était de l'argent plaqué et l'autre de l'or plaqué, ce qui n'apporte pas grand-chose à l'expérience de jeu hein, d'un côté. Hein. Ça peut très bien être un marqueur assez sobre comme dans Terraforming Mars, hein, où c'est juste un cube blanc pour matérialiser la valeur actuelle sur la piste. Et justement, pour revenir aux figurines de Sun Tzu, dans la version de luxe, il y en a pas mal au final qui sont tordus dans la
parce
de base.
Que c'est du plastique mou, c'est la version de base pour le coup.
Et pour le coup, des cubes en bois, un petit peu à la Flua Crofno, feraient très bien l'affaire pour représenter la valeur des armées.
Et alors, on va peut-être parler de à quoi sert finalement un ajout de matériel. C'est soit pour des questions d'ergonomie, mais c'est relativement, enfin, de mon point, si, on aura des contre-exemples, soit d'un point de vue d'ergonomie, ou sinon juste pour l'immersion et l'expérience de jeu, l'un pouvant aller avec l'autre, hein, ça peut être les deux. Et du coup, là, tu parles de figurines pour Sun Tzu. Sun Tzu, moi, je trouve le sentiment de conquête est bien induit par la mécanique et pas par les figurines, et qu'en fait, j'aurais autant ce sentiment-là, par exemple, avec des cubes en bois, comme tu l'as dit, que avec des figurines, pour le coup.
Surtout que les... le plateau de jeu qui représente la carte de la Chine est assez petit, hein, au final, dans la boîte. Ouais. Et donc, quand tu commences à le surpeupler de figurines, pratique, la manipulation n'est pas pratique. Hein, tu
vois, clairement, ouais. Et on peut rester sur les figurines, peut-être, parce que c'est vrai que c'est un des éléments matériels, surtout avec l'explosion de Kickstarter depuis quelques années maintenant.
Typiquement, les figurines de Sun Tzu, c'est pas des figurines que tu vas peindre.
Non.
Ouais, tu vois.
Et c'est des figurines que si t'avais reçu par Kickstarter, à mon avis, t'aurais pu râler. Mais oui, donc les figurines sont vraiment un élément matériel important depuis maintenant. Ouais, peut-être que c'est Zombicide, peut-être que c'est un peu avant avec d'autres exemples. Vous nous direz en commentaire. Mais c'est vrai que
HeroQuest, on peut remonter.
Ouais, carrément, complètement HeroQuest. Ouais, je suis d'accord. Ça, surtout que HeroQuest et Dungeon Crawling, Zombicide aussi, c'est il y a une filiation potentielle. Et clairement, ces figurines, tu les retires. Est-ce que le jeu marche autant ? Je suis à peu près sûr que non. Et surtout, dans Zombicide, l'intérêt des figurines, Zombicide, par ses aspects mécaniques, n'est pas super intéressant, n'est pas super profond. C'est intéressant pour les scénarios qu'il propose. Et c'est intéressant pour l'aspect cinématographique qu'il va développer, parce que ça va te faire des mémoires de jeu. Où tu vas te retrouver seul, infesté de zombies, que tu vas sortir ta tronçonneuse, que tu vas tenir deux tours pendant que tes potes vont réussir à arriver à l'objectif, ça te donne ce genre de souvenirs. Et là, pour le coup, en tout cas pour moi, on peut dire le contraire, hein, tout à fait, mais pour moi, le fait que tu aies des figurines incarnées va ajouter à l'expérience de jeu, tu vas plus, pas forcément t'identifier, mais en tout cas, enfin, t'identifier au caractère que tu joues, et du coup, peut-être acquérir un certain roleplay qui collerait avec l'image que tu te donnes de la figurine. Et donc là, la figurine...
C'est-à-dire que tu te projettes sur ta figurine.
Dans ces jeux plus ou moins narratifs, et finalement au gameplay, peut-être pas très profond, peut-être assez superficiel, peut-être assez simpliste, ça veut rien dire sur la qualité du jeu, encore une fois, et bien peut-être que les figurines, justement, sont un apport à l'immersion, à l'expérience de jeu, bien plus que dans des jeux comme Sun Tzu, beaucoup plus axés sur la mécanique, où l'expérience de jeu repose plus sur la mécanique.
Mmh. Bah, on avait déjà parlé des figurines à l'époque avec Outlive. Et ce que j'avais dit lors de ce numéro, je crois que c'était pendant le hors-série de...
C'est possible,
En fait, les jeux où t'as des figurines qui ne représentent pas du déplacement direct, je trouve ça assez accessoire au final.
Ouais, parce que tu les manipules pas.
C'est ça, tu vas les poser quelque part, comme les figurines de Dead of Winter, d'ailleurs qui sont pas des figurines,
qui sont des cartonnés sur chevalet.
Voilà. Étant donné que tu vas pas réaliser des déplacements effectifs de cas sur de la distance... où tu as une réelle notion de déplacement avec un nombre de cases sur lesquelles tu peux te déplacer, où tu as un effort de distance qui est réalisable. Là, dans ce type de jeu, les figurines sont essentielles. Dans les autres jeux où c'est juste du placement de figurines, au final,
encore essentiel, chose, peut-être pas le bon moment, parce que ça apporte quelque chose, mais Zombicide, tu pourrais jouer avec des cubes de couleurs, le jeu serait mécaniquement le même. Mais parce que d'autant plus que les éléments... de disons RPG du stuff que tu vas acquérir ne sont jamais symbolisés sur la figurine, donc ça représente en rien l'évolution mécanique du jeu. C'est vraiment juste illustratif.
Alors moi j'ai un contre-exemple dans, je sais pas si t'as déjà joué à Last Night on Earth, j'en ai déjà parlé, c'est un des premiers jeux que j'avais chroniqué dans un top 500. Il y a des packs de figurines supplémentaires que tu peux acheter qui s'associent à des extensions où les zombies vont être armés, ou en tout cas ils vont ramasser des choses, ils vont se prendre dans du barbelé, et du coup tu vas remplacer la figurine standard du zombie par une de ces figurines personnalisées qui correspond vraiment à la caractéristique. Et d'accord. Donc là, tu as une immersion supplémentaire et tu vois très bien,
tu vois
au milieu d'un tas de zombies, tu vois, là c'est le zombie qui est entouré de barbelé, là c'est le zombie qui, dans ses tripes, il a un bâton de dynamite qui est allumé, qui se promène, tu vois. Donc tu peux différencier les figurines par rapport à leurs caractéristiques.
D'accord, ouais, c'est quelque chose quand même qui est assez ponctuel, je trouve, et qui est très bien, mais...
Mais ça peut très bien marcher avec une figurine cartonnée.
Et ça peut aussi marcher, par exemple,
fois, c'est même
avec
mieux
des
détaillé.
Trucs type Lego, par exemple. Alors ça existe peu, parce que je pense que c'est très coûteux, mais où finalement, tu ferais des trucs qui puissent se clipser, etc., et donc... où t'aurais, alors ça ferait des manipulations supplémentaires de matériel, mais où t'aurais visiblement cette évolution-là, c'est quand même assez rare.
Bah après Dice Forge, ça sera Figurine Forge peut-être,
c'est ça.
Tu vas pouvoir customiser ta figurine en temps
mais,
réel.
Mais moi j'ai déjà parlé de proto avec des gens où les gens ils ont cette idée, mais c'est juste pour l'instant en tout cas.
Bah, c'est un petit peu ce que t'as dans des figurines Warhammer, non ? Que tu peux customiser.
C'est ça, mais Warhammer, un jeu de figurines seulement,
ouais.
Et où tu peux les customiser, mais du coup... En fait, moi, ça m'est arrivé dans ma jeunesse de le faire, ou de le faire pour des dioramas, etc. En fait, elles sont quand même fixées une fois que tu les as modifiées, donc tu peux pas les modifier vraiment en cours de partie. Tu les coupes, tu les résines, tu les machins, tu les trucs. Alors finalement, ça te donne un truc personnalisé, mais après, assez peu modifiable. Donc ça, c'est les figurines. On a parlé d'Outlive. Outlive avant, alors il y a la version normale et la version deluxe. Enfin, et les figurines sont pas dans la version normale, si ?
Non.
Non, hein, c'est non. Ça. Ça reste des meeples ou un truc comme ça avec un numéro.
C'est des meeples en bois, ouais, qui sont... Après, encore une fois, c'est des figurines que tu viens placer, hein, c'est du placement de meeples, donc entre placer ton meeple ou placer ton bloc de figurines, hein, c'est même
ça.
Pas...
Et en fait, là,
c'est ton groupe de figurines, hein, qui était sur
un socle. Sur le meeple, il y avait inscrit un nombre qui indiquait, entre guillemets, la force de ton groupe de survivants.
Et là, tu l'avais au dos de la figurine, hein, c'est ça.
Ouais, et puis je crois que la taille du groupe de figurines change selon la force.
Ça, je sais pas, j'ai pas vu les figurines.
En tout cas, ça pourrait être un marqueur qui permettrait de l'identifier plus facilement. Mais j'ai pas joué encore à Outlive, bien que je l'ai depuis presque un an maintenant. Mais je pense que.
C'est en résolution 2018.
Mais j'ai d'autres résolutions. mais du coup, je suis pas sûr que ce soit plus lisible avec les figurines. Ça apporte. Je suis pas sûr que ça apporte de l'immersion. Honnêtement, j'ai pas joué avec et sans pour me faire un avis là-dessus. Je sais pas si tu te sens investi émotionnellement dans ce groupe de survivants, parce qu'il est symbolisé par des figurines, surtout que quand elles sont pas peintes, parce que ça pose aussi la question de ça, d'avoir des figurines. Je pense que, par contre, au niveau de la lisibilité, je suis pas sûr que ça apporte non plus grand-chose.
Des meeples ou des pièces cartonnées peuvent faire l'affaire. Après, c'est le plaisir qu'on peut avoir de jouer avec des vraies formes 3D. Quoi.
Enfin, ouais. Et il y avait aussi ça dans Conan, c'est-à-dire que le jeu final est avec des figurines, plus ou moins nombreuses selon à quel point on a investi dedans. Et par contre, dans les démos que faisait Fred et son équipe avant le Kickstarter ou au tout début, c'était présenté avec des meeples. Aujourd'hui, sur Kickstarter, pour ce type de jeu, il faut des figurines, je pense. Un autre contre-exemple, c'est par exemple dans la boîte, toujours chez la boîte de jeu, il y avait 10 minutes tout qu'il avait refusé de mettre des figurines parce que ça nuisait à la lisibilité. Donc pour revenir sur Conan, c'était des meeples. Chaque meeple était d'une couleur différente selon les héros, ou bien enfin, il y avait un marqueur pour les différencier. Moi, j'avais joué comme ça. Et ben, le plaisir était le même, en fait. Parce que Conan est suffisamment mécanique pour que les sensations de jeu se ressentent sans que tu aies besoin de ces figurines. Quoi.
Ouais, bon, après, ça peut aussi être un aspect un peu personnel et subjectif. Parce
tout à fait.
Que
oui, c'est moi, mon ressenti.
Quel est le niveau d'indirection, ou quel est le niveau d'implication que tu peux avoir dans une thématique en fonction du matériel
bien
présent.
Sûr. Moi, je me rappelle de Guillaume dans Playtime qui m'avait dit qu'il arrivait à s'investir dans Puerto Rico, à se créer une histoire, etc. Moi, j'en suis pas là, mais dans Conan, pour le coup, le sentiment d'être contre l'Overlord, de faire des manœuvres, etc., d'aller zigouiller des gens ou d'aller chercher un trésor ou quoi, je l'avais avec les meeples. Dans Naufragés, c'est des meeples et la sensation d'exploration. On a déjà parlé plusieurs fois de Naufragés. Qui est imparfait, mais le sentiment d'exploration et de vivre une histoire, je l'avais. Dans le 7e continent, il y a des figurines, c'est cool, mais si c'était juste des cubes, etc., c'est pas ça qui me retirerait le sentiment d'exploration.
Dans le 7e continent, toute ta thématique, toute ton histoire vient des cartes, au final.
C'est ça.
Les figurines ne matérialisent que ta position
oui,
sur la map.
Oui, symboliser autrement, d'autant que tu as les cartes, effectivement, pour t'identifier au-delà de la figurine. Surtout que les figurines étant assez petites, c'est parfois difficile de savoir laquelle correspond à quel personnage en début de partie.
Un cube de couleur bien identifié ferait l'affaire.
Pour reprendre un autre contre-exemple, c'est Blood Rage. Pour le coup, dans Blood Rage, j'ai un plaisir juste à manipuler les figurines parce qu'elles sont magnifiques. Alors que c'est un jeu assez mécanique, pour le coup, c'est pas du tout un jeu à la zombicide.
Il marcherait très bien sans figurines aussi.
Il marcherait complètement très bien sur figurines. Mieux que Zombicide, pour le coup, qui Zombicide repose beaucoup sur la narration, Blood Rage beaucoup moins. Mais là, pour le coup, je suis content qu'elle soit là parce que, en attendant mon tour, je regarde les figurines, quoi. Parce qu'elles sont spécialement réussies. Et du coup, ça va peut-être nous amener sur le sujet du matériel, pas forcément les figurines, mais qui est là juste pour apporter à l'expérience de joueur, sans forcément influer sur la mécanique, mais qui vaut quand même le coup d'être là. Je pense par exemple à Splendor.
Les pièces de poker.
Ouais, les fameux jetons de poker, ouais.
Et pareil que tu vas. Ça peut faire office de passe-temps, la manipulation des pièces qui peut être un toc, hein, au final, hein, en attendant ton tour de jeu, tu vas si t'es assez kinesthésique, hein, si t'es assez tactile, hein, tu vas toucher tes pièces, tu vas les manipuler, c'est vrai que si c'était juste des morceaux de carton en bois, ça aurait moins son intérêt, mais est-ce que ça veut dire que c'est un apport réel pour le jeu ?
En tout cas, je sais qu'au moment où il était sorti, et dans les mois qui ont suivi, et même dans la communication aujourd'hui qu'ont les Space Cowboys par rapport à ça, ils mettent ce matériel-là spécifique, des pièces de poker, comme important dans la réussite du jeu. Et ils disent, nous, finalement, on voulait faire un jeu luxueux, on aurait pu faire un jeu à 15€ ou à 20€, mais c'était notre volonté de faire ce jeu luxueux avec ce matériel-là, parce que nous, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Alors, à quel point est-ce que c'est des éléments de communication, etc., ça... je laisse les auditeurs le juger, mais en tout cas, clairement, il était dit, Splendor a réussi aussi grâce à ça, parce que justement, quand t'attends ton tour, t'as tes petites pièces de poker que tu tapotes contre la table, que tu fais tourner entre tes mains, etc., qui t'occupent l'esprit, qui t'aident à te concentrer. Le jeu, mécaniquement, est ce qu'il est, qu'on aime ou pas, mais cet apport matériel permet de le différencier, justement, par rapport à un jeu qui a bien marché aussi, même s'il y a un degré moindre, comme les bâtisseurs, où mécaniquement, pour moi, ils sont assimilables, mais où matériellement, les bâtisseurs n'ont pas du tout ce petit truc en plus. Parce que Splendor, clairement, comme jeu, ça n'a rien de révolutionnaire, ça fonctionne très bien, etc. Mais placé à égalité avec des jeux avec un matériel moindre, ben, c'est une plus-value, quoi. Et ça a toujours été dans la communication des Space Cowboys, quoi, l'importance de ce matériel, quoi.
Après, il y en a d'autres, hein, des jeux qui tirent un petit peu cette ficelle.
Je pense que Splendor a initié, chez les éditeurs, cette envie de faire du matériel luxueux qui permet de différencier.
Ah, je ne sais pas si c'est le premier.
Je ne sais pas si c'est le premier, mais je pense que ça a été un marqueur. Et que du coup, aujourd'hui, certains le font sans avoir rien compris à Splendor et au succès de Splendor, juste en se disant « Oh, ben, il suffit de faire des trucs luxueux et puis ça va mieux marcher. » Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr. Mais dans les jeux récents dont on peut parler...
Il y a le premier jeu de Plan B, hein, le
Century. Ouais.
Il y avait à la fois des pièces en métal, qui pour le coup ne servent pas à grand chose. Hein. En plus, on les manipule à peine. Hein. Elles ne représentent qu'un bonus par rapport au premier objectif disponible. Et les petits bols en plastique. Hein,
Les bols en plastique sont vraiment remarquables. Et Majesty, alors là, c'est rigolo parce qu'on cite trois jeux qui sont censés être dans le Century, le Splendor Killer, et puis. Majesty presque le Century Killer, enfin il y a eu des espèces de blagues comme ça, même si c'est un peu plus complexe encore une fois. Ces deux-là sont clairement, je trouve, dans la veine de Splendor au niveau du choix matériel. Je veux dire, dans Century, tu mettais des sachets, ça marchait de la même façon, puisque il n'y a pas besoin de cacher ce qui est dans les bols ni rien. Donc tu faisais des tas sur la table, ça fonctionnait de la même manière. Donc là, c'est vraiment un choix délibéré.
Et pour reprendre un jeu un petit peu plus vieux, on peut parler d'Agricola. Agricola, donc c'est un jeu où on manipule pas mal de ressources différentes, hein, parce qu'on a les ressources végétales d'un côté et les ressources animales de l'autre. Donc au total, on peut se retrouver avec 7 ressources totales différentes, qui étaient dans les toutes premières versions représentées uniquement par des cubes en bois. Mmh. Et donc forcément, il y avait une palette de couleurs variée pour différencier ces ressources. Et dans les versions ultérieures, on a commencé à rajouter les animaux. Donc on a eu les petits moutons, on a eu les
petits porcs. Donc là, on entre dans ce qui est dans les meeples un peu personnalisés.
Ouais.
Tu m'avais aussi cité en off les Whis et Clark, par exemple, qu'on peut mettre un peu dans la même catégorie. Ouais.
Et sauf que là, ce sont des meeples personnalisés, mais ça reste cependant de la grande série, parce que c'est du matériel que... On peut se procurer, par exemple, chez Spiel Material, hein, qui est un site allemand de... Je pense qu'il est assez prisé des auteurs de jeux ou de tout créateur de proto, où on peut acheter des cubes en bois, des dés,
pas mal de
matériel à prix tout à fait raisonnable. Mais pour reparler de...
D'Agricola, ouais.
D'Agricola ou de Lewis et Clark, justement. Là, les meeples personnalisés, c'était de la production spécifique. On avait des petits meeples en forme d'Indien avec... Une petite plume voilà, sur la tête.
Et pour le coup, dans Agricola, ça permet vraiment d'identifier plus facilement les ressources, je trouve. Parce que dans Keylus, on a cette fameuse blague du cube rose et du jambon, mais mine de rien, ça permet de se projeter plus facilement dans le thème, quoi. Dans Agricola, de voir les moutons au lieu de voir un cube blanc, ben...
Ouais, sachant que le jambon, à l'époque, dans les années 1400, il devait pas encore être coloré. Hein.
Non, certainement pas. Et sinon, justement, il y a ce qu'on peut rajouter sur les meeples. Alors, c'est parfois dans les boîtes, parfois en dehors, c'est tout ce qui est les petits autocollants pour mettre plus d'identité sur les meeples. Moi, je sais que c'est sur Lewis et Clark que je les avais pris, je crois, chez Trick Track, qui proposait ça en goodie.
Ouais. Tu pareil, pouvais les choper aussi sur le site de l'éditeur.
Ça reste assez, assez limité comme, comme apport. Mais autre chose comme, comme type de matériel qu'on peut trouver dans le matériel de base.
Alors, juste pour revenir sur ouais. le matos personnalisé, dans la boîte de 51e état, enfin 51 State,
ouais, de
aussi bien la version
Games.
Portal, voilà, dans la Master Set, là, ils ont carrément mis des ressources personnalisées.
D'accord,
donc, ouais. T'as des petits trous dentés, t'as des petites armes en bois.
Et il y a une grosse différence de prix, du coup
bon, c'est une boîte à 45-50 euros, quoi. Enfin,
ouais.
Prix standard actuellement, hein, on va dire.
Donc là, c'est une espèce de version, entre guillemets, plus. Il y a aussi Tokaido qui avait fait ça, justement. Tokaido, de base, c'est des marqueurs. Là, il y a eu des versions avec des figurines qui sont très, très jolies, pour le coup, qui apporte, je trouve, un vrai plus à la boîte, même si ça change rien, encore une fois, au niveau mécanique. Donc ça, tout ça, effectivement, c'est des choses qu'on peut trouver. Tu avais aussi cité en off les pillards de la mer du Nord,
ouais,
où les pièces de métal, elles sont directement dedans, en opposition à d'autres jeux où il faut les prendre à côté, quoi.
C'est ça.
Comme Kobayakawa, notamment, qui est un jeu, je pense, à 10 euros, quoi. Et si tu achètes des pièces, ça double le prix, quoi.
Et là encore, il faut faire la différence. Soit tu peux les acheter uniquement auprès de l'éditeur, parce que ouais. souvent, tu as du matériel exclusif que tu ne peux acheter que sur le site.
Soit sur les salons ou sur le site, ouais.
Voilà, que sur les salons ou sur le site. On peut citer soit les pièces, soit des fois des tapis de jeu, du matériel de rangement ou de présentation, comme je crois que c'est Dédé qui en avait parlé, la tour de présentation pour King Domino.
Ouais. Et c'est vrai que tout ça, donc on l'a dit, hein, c'est vraiment de l'accessoire, c'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose, au-delà de, effectivement, parfois l'ergonomie, de l'expérience de jeu qui permet quand même de plus se projeter, même si pour moi, honnêtement, c'est assez rare. Pareil, tu parlais des tapis de jeu, alors là, il y a peut-être un aspect pratique avec les cartes qui sont mieux posées, qui glissent moins, avec des emplacements.
Il y a des tapis de jeu pour Century, par
exemple.
Ou
pour Splendor, où il y en a un paquet maintenant. Hein. Ou le poster là, pour Colt Express aussi.
C'est ça. Alors là, c'était juste un élément décoratif.
Mais ça a son importance.
Il n'avait pas d'aspect fonctionnel.
Ouais, mais ça, et pour le coup, je trouve que ça apporte à l'expérience de jeu, là, pour le coup, alors que les playmats, ça va être un côté plus pratique, ou collectionneur, ou entre guillemets un peu frimeur, si on veut.
Alors, t'as les deux, parce que t'as aussi les playmats, par exemple, pour les jeux X-Wing, où là, ça va te créer une belle surface de
ouais,
jeu.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
Avec un...
Un fond étoilé, un peu.
Voilà, c'est ça.
Et tout ça, effectivement, après, on a aussi parlé de When I Dream, par exemple, où il y a un masque, on pourrait juste fermer les yeux quand les... Donc When I Dream, sorti en 2017 chez Repoprod, où finalement, c'est un jeu aussi d'association un peu, disons, à la Dixit, pour faire vite, et où on pourrait juste fermer les yeux pendant que les gens nous donnent des mots et ils fournissent un masque pour avoir les yeux cachés, un masque qui n'est pas forcément du meilleur goût, mais en tout cas, il est dedans... au lieu de dire le joueur ferme les yeux, quoi.
Je crois que dans Maître Renard aussi, t'avais aussi un masque pour
ouais.
un peu te cacher la vision.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
Tu peux aussi fermer les yeux au final, hein, ça rendrait le même effet. Et alors, on s'est aussi posé la question d'où est venue un petit peu toute cette profusion de matériel, hein, donc bah, probablement que.
Alors, il faut rappeler un truc, c'est que
un petit peu pour quelque chose. Hein.
C'est que le joueur, dans l'ensemble, est un joueur assez aisé, en moyenne. C'est pas au niveau des classes sociales. Donc, c'est un joueur qui a le fric pour s'acheter des jeux, et éventuellement, s'il est passionné, qui a aussi le fric pour s'acheter... J'en ai parlé avec celui qui fait les Twin Pulls, et avec celui qui fait Gozozone, donc deux accessoires différents, mais qu'on peut acheter à côté. C'est les gens qui ont du fric, qui sont prêts... En fait, ils se plaignent rarement du fait que les accès... Parfois, il y a des plaintes souvent que les jeux sont trop chers, etc., on parlera après de la relation au prix du fait de mettre du matériel plus luxueux, mais pour les à côté, donc les sleeves, donc les twin pulls, donc
les
rangements de boîtes, les gens sont prêts à mettre le fric.
Les sur plateau.
Parce qu'ils sont prêts à se dire, ça ne sert à rien, je sais que ça coûte un certain tarif, etc. à faire, qui est dans l'ensemble connu par ceux qui produisent, qui savent exactement combien ça leur coûte et combien ils vont y gagner. Mais par contre, il y a. Comment dire, ils sont prêts finalement à mettre la thune, ils se disent je sais que ça ne me sert à rien, que ça ne va rien apporter concrètement aux mécaniques, qu'éventuellement ça va. Mais je suis prêt à mettre le prix dedans. Et ça dénote aussi effectivement d'un public qui n'a pas besoin de se poser tellement ces questions.
Bah, y a aussi un rapport à l'objet. dans ce cas-là. Dire,
Mais le rapport à l'objet, il faut avoir l'argent pour en fait l'avoir. Parce que si tu n'as pas l'argent, bah, finalement, tu ne vas peut-être pas te le poser ou tu ne vas pas avoir tout simplement les ressources pour te le procurer, quoi. Et...
C'est un petit peu comme quand tu achètes des boîtes collector de jeux vidéo ou de DVD, parce que tu vas avoir la double boîte, tu vas avoir les petits accessoires en supplément qui... Ils apportent quoi par rapport au film de base, tu vois, c'est un peu la même question.
Tu parlais du Kickstarter comme, entre guillemets, peut-être truc qui a amplifié ce mouvement. C'est vrai que c'est les mêmes joueurs qui vont pas être gênés de mettre plein d'add-ons, mais qui vont peut-être trouver que la boîte de base est chère. Et c'est rigolo cette dichotomie un peu entre « Oh là là, les boîtes aujourd'hui sont trop chères, oh, si vous mettiez du matériel normal dedans, ça coûterait moins cher. » Et d'un autre côté, parfois les mêmes qui vont pas hésiter à dépenser 100€ en add-on pour du truc qui va servir à rien. Par exemple, je sais pas, qui va servir à rien ou pas, mais le carnet de voyage pour le 7e continent, qui vont dépenser des fortunes en sleeves, pour des jeux qui vont peut-être pas sortir, qui vont dépenser pour des figurines, qui vont dépenser pour les treasure chests aussi, des ressources personnalisées très très chères pour le coup. Et c'est rigolo parce que...
Ou les meeples personnalisés que tu trouves chez Meeple Source aussi.
Mais du coup, c'est amusant, je trouve, cette petite dichotomie chez les mêmes joueurs, où en fait, tant que c'est du bonus, ils acceptent que ce soit entre guillemets coûteux, mais que par contre, qu'ils aiment pas qu'on se foute de leur gueule de la part des éditeurs, quoi. Et peut-être qu'on peut justement en venir à la relation au prix. Alors, on en avait parlé dans le hors-série du Weekend Proxy Jeu d'il y a 2 ans sur Meeple War, où il y a Ben qui trouvait que finalement, les tuiles auraient pu être plus épaisses. C'est aussi du matériel luxueux. Chez Taluva, les tuiles sont très épaisses, etc. Ce serait pas forcément nécessaire qu'elles soient aussi épaisses.
Et encore pire sur le Taluva de luxe.
C'est ça. Et ça apporte vraiment un côté île, l'épaisseur des tuiles, qu'il n'y aurait peut-être pas si c'était des tuiles très fines. Et Alain, donc, de Blue Cocker, avait dit « Oui, mais bon, moi, j'ai pas envie de vendre des jeux aux polytechniciens, mais c'est pas pour la même raison que Mathieu Despneaux, c'est j'ai pas envie de toucher un public juste qu'il soit friqué. Si moi, je peux mettre un jeu 5€ moins cher en mettant du matériel, certes, toujours fonctionnel, mais peut-être un peu moins luxueux, ben, je vais le faire parce que je peux toucher un public plus large, et puis surtout, ça permet à des classes sociales moins élevées de pouvoir jouer. » Et du coup, on peut se poser la question, et c'est ce que t'as fait aussi dès le début, c'est finalement, est-ce que mettre du matériel luxueux, les jetons de poker, etc., les bols, c'est pas un moyen d'augmenter le prix de manière un peu artificielle, alors que ton jeu, il vaut peut-être 10€, tu pourrais faire un jeu à 10€, mais tu le mets à 30 parce que ça va augmenter la taille de la boîte, parce que peut-être que sur ce matériel-là, tu vas pouvoir faire plus de bénéfices, je sais pas, enfin...
Est-ce que le retour sur investissement ou la valorisation de la marge est plus importante, bon, ça on peut que faire des suppositions, on n'a pas de chiffres à
mettre en corrélation. Le discours souvent des éditeurs, c'est « mais non, on gagne rien là-dessus ». Sur les tapis de jeu, sur les accessoires à côté, en tout cas sur ce qu'on pourrait appeler des goodies, non, on gagne rien, c'est pour faire plaisir aux joueurs, etc. Ça, c'est leur discours.
Mais tu vois, tu prends la boîte de Sight. Bon, Sight, c'est un jeu issu de Kickstarter. Tu regardes, tu vas sur Philibert, tu tapes Sight, et tu vois la panoplie d'accessoires supplémentaires qu'il y a. Ou rien que le prix des cartes promo. Là, pour le moment, pour le coup, je sais même pas si on peut le classer dans les goodies, mais tu prends les cartes rencontres supplémentaires, les cartes factory supplémentaires, t'as 4 ou 5 cartes qui vont être facturées dans les 5 à 6€. Là, on est plus dans le goodies, hein, on est vraiment dans l'accessoire, le matériel supplémentaire. Et je suis sûr que si tu fais la somme de tous les accessoires qui gravitent autour du jeu, eh ben, t'en as pour plus que la boîte de base.
Ce qu'on avait dit aussi pour Terraforming Mars. Avec les trucs, pour le coup, très ergonomiques, qui permettent
d'éviter... Mais pour le coup, là, c'est pas l'éditeur qui les fournit, tu vois.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Terraforming Mars, parce qu'à un moment, j'avais regardé par curiosité, et il y a un post sur BGG qui recense tous les surplateaux que tu peux acheter.
Qui sont pratiques.
Qui
apportent vraiment à l'expérience de jeu, à la fluidité.
Mais là, c'est pas de l'expérience,
c'est de l'ergonomie. Ouais, c'est ça, ouais. Mais l'ergonomie apporte à l'expérience, parce que si t'as pas à te concentrer sur tous tes cubes qui bougent, tu peux plus te concentrer sur le jeu. Donc s'il est thématique, tu peux plus t'immerger dans le jeu.
On est presque dans la productivité efficiente.
Par exemple, le 7e continent, tu vois, est très ergonomique, et ça permet de pas avoir trop de manipulation dans la recherche des cartes, et donc de se concentrer sur l'exploration et le sentiment d'exploration. Donc là, l'ergonomie est au service vraiment de l'expérience de jeu, je trouve.
Et donc, juste pour revenir sur Terraforming Mars, j'étais étonné du nombre de fabricants différents qui proposent des plateaux en plexiglas, ou en bois, ou en plastique.
Ou en mousse.
C'est ça.
Ah non, peut-être pas en mousse pour les
soins. Pour venir se mettre, soit remplacer le matériel de base, soit pour venir se poser en complément de celui-ci.
Ouais.
Et cette profu et souvent pour des prix relativement chers. Hein. T'en as pour plus cher que le jeu de base.
Mais tu penses, toi, justement, d'un point de vue personnel, que certains éditeurs, au-delà de ça, font juste ça, entre guillemets, pour pouvoir mettre des prix plus chers et faire, entre guillemets, plus de marge? Moi,
Honnêtement, je sais pas. Pour certains jeux, on peut se poser la question, mais on va pas non plus faire de procès d'intention. Mais en tout cas, on supposait que lorsqu'il y a des accessoires qui sont vendus en plus de la part des éditeurs, c'est pour faire un petit peu de valorisation, quoi.
C'est aussi une question d'image, ouais, peut-être.
Voilà, et certains, peut-être aussi pour faire plaisir aux joueurs, parce qu'il y a des attentes, mine de rien. Si les choses se vendent, c'est qu'il y a de l'attente de l'autre côté, quoi. Donc pourquoi ne pas répondre à cette attente? Après, chacun est libre d'ouvrir son portefeuille ou pas, hein.
C'est ça, mais quand c'est dans le jeu de base, en fait, s'il veut jouer au jeu de base, il n'a pas le choix de l'ouvrir à une certaine somme. Par exemple, c'est une tuerie, peut-être qu'il coûterait 3 euros de moins s'il n'y avait pas les bols. Ben, quelqu'un qui dit ben, je vais prendre un jeu à 30 euros, si lui il est à 34, ben, il ne va peut-être pas le prendre et se priver d'un jeu qu'il pourrait aimer juste parce qu'il y a du matériel dont il pourrait se passer et finalement qu'il n'a pas le choix pour les accessoires à côté, je suis d'accord, chacun est libre. Par contre, pour le jeu de base, alors il suffit de pas l'acheter, hein, tu vas me dire, mais si le jeu t'intéresse et que finalement c'est. Enfin, c'est des choses qu'on voit assez souvent, hein, en termes de. C'est des débats qui reviennent aussi sur la taille de la boîte, etc.
Ouais, après, je pense qu'il y a des comportements psychologiques ou des études marketing à mener, parce que peut-être que le joueur va se dire, est-ce que j'en ai assez pour mon argent, tu vois?
Clairement, ouais. Clairement. Mais après, il y a aussi une question des éditeurs qui se disent, ouais, mais si je mets mon jeu à 10 euros, ils vont penser que c'est un petit jeu, etc. Splendor, je suis sûr, j'en sais rien. On peut aussi parler des cartes à effet toilé, pour ne pas fâcher ceux qui disent bien que ce ne sont pas des cartes toilées. Tous ces petits trucs-là, effectivement, c'est du plaisir en plus potentiel. Est-ce que...
Après, c'est vrai que les éditeurs, ils peuvent se dire, de toute façon, les cartes, elles vont finir sous sleeve, donc à quoi bon mettre de la qualité dans la production des cartes, quoi.
Ouais.
Si tu prends, par exemple, les cartes que tu retrouves dans les Pearl Games, ce sont souvent des cartes de bonne qualité, ouais. Hein, avec un effet un peu... un effet tissé, en fait, dans leur structure. Alors que t'as d'autres jeux où les cartes, c'est juste du vulgaire carton, quoi.
Mais je pense que le matériel est effectivement un bon moyen de justifier le prix. Peut-être que ça aurait coûté le même prix pour des questions autres que le matériel, c'est-à-dire pour des questions de coût de développement, de coût de production, de coût de transport et tout. Mais que le fait de mettre un matériel, ça coûte pas beaucoup plus cher pour l'éditeur. En tout cas, pas ça suffit pas à justifier le prix. Mais en fait, le prix aurait pas changé, mais du coup, ça permet de le justifier auprès de l'acheteur, peut-être.
Après, sur la proportion de joueurs, combien se posent la question en se disant « Ah, ben là, il y a eu du matériel supplémentaire, là, il y a eu une carte de meilleure qualité. »
Ouais, je sais pas.
Je sais pas si beaucoup de joueurs ils sont sensibles, au final. En tout cas, peut-être pas le grand public.
Pour terminer, peut-être, on peut juste discuter. Est-ce que toi, justement, il y a des accessoires, que ce soit dans la boîte en elle-même ou à côté de la boîte, qui aient vraiment changé ton expérience de jeu sur certains... ou les trucs que tu aimerais voir sur certains jeux?
Alors, sur les jeux où t'as un plateau joueur avec énormément de curseurs à faire varier, du genre Terraforming Mars, Great Western, alors, j'imagine que ce serait un surcoût, mais si tu prends si tu prends des plateaux qui sont perforés comme ceux qu'on avait dans l'édition collector d'Outlive, ou ceux qu'on retrouve dans Cedars from Ceres, où les plateaux joueurs sont creusés.
Ouais, ouais.
Et du coup, ça te permet à ce que tes pions ne bougent pas et tu sais exactement où sont tes compteurs. Ça, c'est le genre d'accessoire, au final, qui a une plus-value sur l'ergonomie du jeu et la manipulation.
Donc ça, pour toi, c'est...
Donc là, je serais prêt à mettre le prix. Par exemple, je m'étais abonné chez Philibert au réassort des plateaux en plexiglas pour Terraforming Mars.
D'accord, ouais. Qui, effectivement, c'est chiant quand ça bouge dans tous les sens.
Moi, là, j'étais prêt à mettre le prix, je crois que c'était 3,50 ou 3,90 le plateau joueur.
Ouais, moi, de mon côté, il y a effectivement Talouva que j'ai cité. Je trouve que le fait que les tuiles soient bien épaisses, ça apporte vraiment au côté île en 3D. Il y a Splendor. Ouais, vraiment, je trouve que c'est... Enfin, on peut le critiquer d'un point de vue marketing, mais je trouve que... Ouais, moi, je les manipule, les jetons, quoi. Enfin, et vraiment, ça fait partie du plaisir de joueur, un peu comme au poker ou quoi. Quand je joue au poker entre potes, c'est pareil, on a les jetons, bah, je les manipule aussi. Après, ça va vraiment dépendre du jeu, du matériel qui est mis dans le jeu. C'est vraiment des trucs très, très personnels. Il n'y a pas de généralité du tout. Tu vois, dans Sun Tzu, par exemple, je trouve que c'est inutile. Dans Zombicide, le fait que ce soit des figurines, oui. Dans Blood Rage aussi, alors qu'on pourrait penser que non, c'est vraiment très spécifique. Par exemple, dans des jeux d'enchères, ce qui pourrait se faire, ce qui existe peut-être, hein, d'ailleurs j'invite les auditeurs, parce qu'il me semble que ça existe, mais un marteau qui permet de faire 3, 2, 1 adjugés vendus, où t'as le marteau vraiment, je suis presque sûr que ça existe, j'ai l'image du truc, mais ça je trouve vraiment que ça apporterait de la dramaturgie à la partie, et où, en tout cas à ce moment-là, et que vraiment, ouais, c'est un accessoire, je serais prêt moi aussi à mettre quelques euros de plus pour qu'il soit dedans. Peut-être dernière question, est-ce que tu es du genre à te dire, quand tu achètes un jeu et que tu trouves que le matériel est un peu cheapos, comme Benjamin avec Meeple War, à te dire, moi j'aurais préféré que ce soit un jeu à 40 euros avec des tuiles plus grosses, ou bien tu te dis, ben c'est bien qu'il soit à ce prix-là et finalement.
Non.
Non, ouais, moi.
Par contre, j'ai plutôt le réflexe inverse, c'est quand t'achètes un jeu à 40 euros et que t'as du matériel cheapos, là t'es un peu.
Ouais.
Tu te poses un peu des questions.
Ah oui, d'accord,
ouais. C'est plutôt l'inverse.
Et inversement, quand t'as une espèce de truc où tu trouves que c'est surproduit, on parle aussi de ça dans la musique, des fois t'as l'impression que la production est trop forte, qu'il y a trop de production. Quand le jeu est surproduit, tu te dis, ouais, peut-être, et que c'est pas utile, ou que tu ressens pas l'utilité, moi il m'arrive de me dire, ouais, bon, est-ce que c'était vraiment utile de mettre des billes. Des perles dans Abyss par exemple ou quoi. Bon, Abyss, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais en tout cas, plutôt que de mettre autre chose qui aurait peut-être fait réduire le prix du jeu, ça c'est des choses que je me pose. Mais comme toi, quand je me trouve avec un jeu qui est, je trouve au bon prix, avec le bon matériel, je suis rarement à me dire, oh, s'il avait coûté 10 euros de plus et que finalement les tuiles étaient plus grosses, j'aurais préféré.
Non. Alors éventuellement, peut-être dans Seeders from Series, là, dans Exodus, il est bon. Les jetons sont en plastique sur lesquels tu dois coller des autocollants. Est-ce que si c'était des pièces de punch, ça aurait été pareil et si ça avait fait baisser le prix, je sais pas. Pourquoi pas, ouais. Après, la plus-value des pièces plastiques est discutable.
On va s'arrêter là. Peut-être, les auditeurs, vous pouvez nous faire part des jeux vraiment où vous trouvez que le matériel est bien spécifique et qu'il soit bien ou mal employé. Ou des trucs que vous voudriez voir dans les jeux, ou justement de votre rapport au prix et au matériel. Nous, on va s'arrêter là-dessus. Hein. Je pense qu'on a fait un bon.
Je crois qu'on a juste oublié de parler des plateaux surdimensionnés qu'on trouve pour certains jeux. Souvent.
Size, par exemple.
Ouais, dans Size.
Clive aussi, je crois, avait ça dans un des add-ons, il me semble.
Ouais, exact.
Ça peut être utile pour les gens qui ont des problèmes de vue.
Il faut la table adaptée.
Il faut acheter la table.
C'est ça.
Est-ce qu'il y aurait des partenariats entre les producteurs de tables et
les tables en bois là de gamers
qui font vendre des jeux surdimensionnés et puis vous aurez un petit bonus. En tout cas, ouais, n'hésitez pas à nous parler vous du matériel qui vous a marqué ou qui vous marquerait. Nous, on se retrouve dans 2 mois, c'est ça ?
C'est ça. Ouais.
On n'a pas encore choisi le terme, mais ce sera sûrement très bien. Si vous avez des idées, hein, comme d'hab, n'hésitez pas, on vous promet pas qu'on le fera, mais.
On essaiera de se mettre d'accord sur la prochaine lettre au moins.
Oui.
Et ben, je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Quant à nous, on se retrouve normalement dans 2 mois pour le prochain Thermo Fromage. Et d'ici là, jouez bien. Oui. T'as juste posté une image. T'es censé lancer un son.
Ouais, j'ai levé là parce que je crois que j'ai assez posté. Premier Docteur Click, on avait tout préparé. Ça marchait.
Ouais.
Attends.
Bah d'ailleurs, on n'a jamais commencé un enregistrement aussi tard. Elles sont bien, les bonnes résolutions de 2018.
C'est parce qu'on a beaucoup préparé pendant toute la soirée.
C'est ça.
George Harrison, donc des Beatles. Attends, je vais vérifier, je dis peut-être des conneries. Mais si, je crois que George Harrison fait partie des Beatles, je suis pas fou.
C'est toi la caution musicale de la chronique, hein, donc faut pas me demander.
George Harrison, si, il fait forcément partie des Beatles, ce mec. Oui, il était le plus jeune membre des Beatles. Ouf. Non, parce que sinon...